A long way from home.
En sol majeur.
En sol majeur.
Yasmine Joaquin.
Le 11 mars 2012, la France est touchée par le terrorisme de façon symbolique. Parce que militaire français, Imad Ziaton est assassiné d'une balle dans la tête par Mohamed Merah. De façon tragique, et c'est ce qu'on perçoit dans cette rediffusion, deux Français issus de l'immigration se sont retrouvés dos à dos, l'un victime, l'autre bourreau. Depuis, il y a eu Charlie Hebdo, le Bataclan, le 13 novembre et le 14 juillet à Nice. Depuis que le terrorisme s'invite à la table du quotidien français, Latifa Ibn Ziaten, française, musulmane, se bat pour qu'il n'y ait plus de Mohamed Merah en France et pour que la mémoire de son fils ne vacille jamais. Elle a créé IMAD pour la jeunesse et la paix, association qui lutte contre la radicalisation des jeunes. Elle publie « Mort pour la France », un témoignage qui commence par ces mots. Imad, tu te disais français et tu en étais fier. Parce que je t'ai élevé dans l'idée que la patrie, c'est le lieu qui te nourrit et te protège. C'est la terre qui t'offre son eau et son sel. Celle qui te fait tous les jours et que tu fais aussi. Celle qui place en toi sa confiance et en qui tu espères. Souviens-toi, chaque fois que je te disais « La France, c'est mon père », tu riais. « Ça suppose que le Maroc, c'est ta maman ?»« Bien sûr », je répondais, « puisque je suis née là-bas et que seules les mamans donnent la vie. Après, c'est l'affaire de la nation qui veille sur toi et où tu vois grandir tes enfants. » Bonjour Latifa Ibn Ziaten.
Bonjour.
C'est un texte que je me permets de lire à votre place, que vous avez écrit, mais que vous ne pouvez pas lire.
Parce que c'était très difficile de lire cette lettre adressée à mon fils. Pourquoi j'ai fait cette lettre? Parce que il était fier, j'étais fière. Mais quand j'étais humiliée dans cette commissariat, pour que les gens y comprennent, c'est important.
Attention, attention.
M comme. Machine à remonter le temps.
On dit, et sans doute à juste titre, que les parents ont une responsabilité dans le chemin que prennent leurs enfants. Alors, votre fils Imad, ayant épousé très tôt les valeurs républicaines de la France, on aimerait bien savoir quelle maman il a eu. Vous êtes né en 1960 au Maroc, à Tétouan, c'est dans le Rif occidental. Et à vous lire, votre vie de petite fille a été difficile. Votre mère, qu'on a mariée à 13 ans, a décidé de divorcer alors qu'elle était enceinte de vous.
Oui, parce que c'était... Elle a beaucoup souffert avec mon père et c'était très difficile le divorce à cette époque-là. Mais c'est pour ça qu'on a quitté le Maroc. Ma mère, elle était obligée d'aller vivre à Ceuta pour ne pas faire honte à la famille.
Donc dans le territoire espagnol.
Voilà, le territoire espagnol. On a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans.
Dans quelles conditions? À quoi ressemblait votre vie à ce moment-là?
J'ai des souvenirs quand j'avais 4, 5 ans, 6 ans. C'était très difficile parce que ma mère, elle était c'est une femme très courageuse. Elle a travaillé, elle a assumé ses enfants.
Qui s'occupait de vous pendant que votre mère travaillait?
Il y avait mon 12e frère, Selim, qui s'occupait beaucoup, et ma sœur.
Oui, il s'occupait vraiment comme une petite maman de
voilà,
vous. Hein.
Ouais,
il faisait votre toilette jusqu'au tagine le soir.
Ah oui, il faisait le repas et nous préparait, nous sortait. Mon père et ma mère, c'était mes deux frères.
Mais Latifa, vous allez perdre votre mère à l'âge de 9 ans. Votre mère meurt d'une hépatite. Qu'est-ce que vous devenez, vous, à ce moment-là?
Ah, ça, c'était très difficile parce qu'on était 5 frères. Mon père s'est remarié. Il fallait aller vivre avec ma belle-mère. C'était très difficile. Difficile de vivre avec une belle-mère qu'il ne vous aime pas, qu'il vous prend pour une bonne.
Oui, vous devenez officiellement sa domestique.
Tout à fait.
Et puis, vous êtes interdite d'école.
Oui, parce que je pense que ça devenait d'elle l'idée, parce que mon père, c'est un homme quand même, il était militaire, c'est un homme ouvert, mais il a pris la décision de pas qu'on aille à l'école.
Autre temps, autre mœurs, me direz-vous, mais qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'en grandissant comme ça, sans véritable structure familiale, hein, on sent que c'est un peu flottant, vous ne tombiez pas dans la délinquance, Latifa Benziaten?
Parce que, vous savez, quand on a des familles qui vous cadrent, c'est important. J'avais un grand frère, Mohamed, qui était très sévère. Il a remplacé le père. Et cette grand-mère, c'est une femme formidable. Elle nous a éduqués, elle nous a protégés. Parce que ma grand-mère, elle était très, très, très sévère et très humaine. J'ai appris plein de choses avec cette mamie, comment je m'assois, comment je mange, comment je parle, comment je regarde la personne, comment on peut être habillé, comment on peut s'allonger, comment on peut s'asseoir. Tout ça grâce à cette mamie qui m'a aidée. Ma grand-mère, pour moi, c'est un grand pilier qui est à l'intérieur de soi.
Mais en même temps, tout en étant attachée à votre clan et à cette terre natale, vous n'avez qu'une idée en tête, hein, adolescente. Vous voulez partir, vous voulez rejoindre l'Europe.
Oui, c'était un rêve, je ne sais pas. Parce que peut-être le moment que j'ai vécu en Espagne de ma jeunesse, peut-être ça m'a donné le goût de, peut-être de quitter le territoire marocain. Et la chance, je me suis rencontrée cet homme que je vis jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai tombé amoureuse, un coup de foudre.
C'est vrai, un vrai
voilà,
coup de foudre.
Un vrai coup de foudre et je me suis trouvée en France.
Grâce à votre futur mari, cheminot voilà. À la SNCF.
Tout à fait.
Écoutez ce moteur, monsieur, du Vivaldi. Et puis alors, regardez-moi ce tableau de bord, quel luxe. Vous savez que la Renault 12 est une traction avant, et qui dit traction avant dit sécurité. Voilà.
C'est beau d'avoir tourné Podane, je veux dire, de l'avoir rendu aussi actuel, parce que je pense que la tradition maintenant, en effet, ce sera par le cinéma qu'on transmettra les contes de fées. Ils doivent être transmis, c'est comme ça qu'il faut le faire, je crois.
Catherine Deneuve, est-ce que vous croyez que les adultes croient aux contes de fées?
Oui, peut-être même encore plus que les enfants, parce que je crois que les adultes en ont vraiment besoin. Les adultes d'abord ont été des enfants, donc ils ont des souvenirs, et je pense que la vie est difficile et dure et cruelle, et que c'est un besoin.
Bécom. Bleu.
Ce qui se
rouge.
Alors, est-ce que la France que vous imaginiez, la Tifa du Maroc, c'était ça, la Renault 12, Catherine Deneuve et Piaf?
Oui, parce que ça me rappelle beaucoup quand je suis venue en France, de s'intégrer. Bon, c'était difficile, vous savez, de quitter une grande maison, une grande famille, de se trouver à deux avec un F2, tout petit, de pas parler la langue, comment je peux m'en sortir? Et c'était, les journées c'était long. Alors, la seule solution, c'est que j'allais vers mes voisins, de parler avec les gestes. Et comme j'ai parlé un petit peu la langue espagnole, ça m'a un petit peu aidée pour dialoguer facilement avec mes voisins, le boulanger, quand j'allais au marché.
Vous voilà. Vous jetez à l'eau, hein, en fait.
Ah oui, non, mais c'est combien de fois j'étais perdue à Rouen. Je savais pas quel bus prendre pour rentrer chez moi. J'ai pleuré parce que j'ai paniqué. J'ai vécu des choses assez dures. On dit quelqu'un qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, il vient et trouve le confort. C'est vrai qu'il y a le confort, mais il y a aussi la souffrance de s'adapter. Il faut bien voir les choses.
Vous prenez des cours d'alphabétisation aussi?
Oui, j'ai appris un petit peu avec mes voisins. Mais c'était pas suffisant. Il fallait que j'aille dans le centre social, qui m'a beaucoup aidée à apprendre des valeurs, à apprendre la cuisine, à lire et écrire. Et c'était pas suffisant. Il fallait que j'aille plus loin. Et je me suis inscrite dans l'école Dernière Chance. Et c'est là où j'ai appris vraiment le français.
Et tout va se jouer d'une certaine manière lorsque vous avez des enfants. Vos enfants, vous allez décider, Latifa, de leur donner une vraie double culture, c'est-à-dire que chez vous, on fête à la fois l'Aïd et Noël.
Ben, vous savez, c'est important quand un enfant, il est français, il est né en territoire français, il y a des cultures, il y a des valeurs, il y a des fêtes. Je ne pouvais pas faire la fête de Noël, par exemple, c'était important. pour mon fils.
Pas toujours le cas des mamans maghrébines que vous croisiez.
Oui, mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que si on a compris comment on peut donner l'envie et de trouver sa place à l'enfant, on commence par des traditions, la culture, les valeurs, les fêtes. C'est important pour l'enfant. Pourquoi j'ai faisais le fête de Noël? Parce que si mon fils il se trouve à l'école et un camarade lui dit « Est-ce que tu as fait tes fêtes de Noël? Le Père Noël est passé chez toi. » Si mon fils il n'aille pas, il va lui dire « Non, c'est interdit. » Interdit par qui? C'est une fête joyeuse pour l'enfant. Et c'est pour ça que je n'ai pas voulu que mon fils il se sente différent de l'autre. Oui, mon Père Noël est passé, oui, j'ai mon cadeau. C'est important.
Vous vous êtes beaucoup investi, Latifa, dans l'éducation de vos enfants. Lorsque votre premier fils est à la maternelle, vous êtes convoqué par la maîtresse qui a l'impression qu'il ne parle pas parce qu'il ne sait pas parler français.
Oui, parce que mon grand garçon, il était très timide et il ne parlait pas beaucoup. Et il m'a dit, quand il m'a convoqué, il m'a dit, votre fils il est né au Maroc, madame? Mais j'ai dit, non, il est né en France. Pourquoi? Ben, il m'a dit, tout ce qu'on lui dit, il ne comprend rien. Et on a du mal avec lui. Et j'ai regardé mon petit bébé, il avait à l'époque 4-5 ans. Et j'ai dit, on va apprendre toutes les deux, Hatim.
Et c'est ce que vous avez fait?
Et c'est ça que j'ai fait. On cherchait les bouquins à la bibliothèque de la SNCF et on lisait les histoires. Et c'est là que j'ai dit, je ne parlerai plus arabe, je parlerai le français, que mes enfants ne sont pas différents de l'autre, et ils vont apprendre. Et peut-être j'ai fait une erreur, parce qu'il fallait que je me rattrape plus tard, parce que vous savez, quand vous avez un enfant de 15 ans, il ne parle pas, la langue maternelle, c'est difficile.
C'est l'autre volet de la difficulté.
Voilà, la difficulté pour quand on part en vacances, quand on est au milieu de famille, il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas appris à vos enfants? Et j'explique. J'ai dit, c'était important qu'ils apprennent d'abord la langue française.
Alors, à côté de cette volonté de vous adapter au code français, il y a malgré tout un attachement de votre part à certains codes de notre bon vieux Maghreb, j'ai envie de dire. Parce que pour vous, Latifa Ibn Ziaten, les filles, franchement, vos filles, elles n'ont pas le droit à la même liberté que vos garçons.
Vous savez, quand on est éduqué d'une manière assez carrée, j'ai gardé ça en moi, vous voyez, malgré que je suis née dans un pays européen, je suis ouverte, j'ai appris pas mal de choses. Mais cette partie féminine, je l'ai gardée et je voulais l'inclure à ma fille. C'était important pour moi. Peut-être c'est un tort que j'ai fait, peut-être c'est un bien aussi.
En tout cas, vous voyez vos enfants grandir et se développer assez harmonieusement dans cette culture et cette identité française. Et peut-être que vous, vous avez eu à accepter le fait que vos enfants se sentent plus français qu'arabes.
Je voulais qu'ils sentent les deux. Les deux, c'était important, mais d'abord, ils sont français.
Est-ce que vous savez pourquoi votre fils, Imad, a voulu s'engager dans l'armée?
C'était un garçon brillant. Il a fait des études et il n'avait pas de chance de trouver ce qu'il a souhaité. Et il a voulu s'engager à l'armée. C'était difficile pour moi. J'avais peur pour lui. Et quand je l'ai vu s'épanouir dans son métier, de se protéger son pays, défendre la République, c'était important pour moi. Alors j'étais fière d'Aïmet. Fière, un musulman, français, militaire et que protège la République. C'était important.
On pointe beaucoup le racisme en France, vécu par bon nombre de familles d'immigrés. Est-ce que vous, vous diriez que vous avez eu à subir ce racisme ici?
Oui, j'ai subi le racisme. C'est-à-dire avant, moi je le sentais plutôt par jalousie. Quand ils voyaient une femme qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, qu'il a un travail, qu'il a une voiture, qu'il a une maison, que ses enfants ils sont réussis, je sentais ça plutôt jalouse.
C'est un racisme social.
Voilà. J'ai senti ça comme ça, mais quand j'ai perdu Ahmed, mon fils, là oui. Là, je sentais vraiment le racisme.
C'est-à-dire?
Vous savez, quand je me trouvais dans cette commissariat de Toulouse, ça c'est quelque chose que je ne pourrais jamais oublier.
Alors il faut expliquer, c'est au moment où donc, votre fils vient de tomber sous les balles de Mohamed Merah, en mars 2012. Vous êtes convoqué par le commissariat,
oui.
Et vous subissez un interrogatoire que vous racontez bien, qui est un interrogatoire absolument humiliant pour vous.
Plus qu'humiliant, parce que quelqu'un qui est debout, il ne vous regarde même pas, il vous pose des questions dures, Votre fils était un délinquant, votre fils était un trafiquant. Vous ne connaissez pas votre fils, madame. Oui, il est militaire, ok, mais ce n'est pas ça, vous vous trompez. J'arrête pas de dire, monsieur, j'ai des enfants qui sont bien élevés, mon fils il ne boit pas, il ne fume pas, c'est un soldat. Ça fait 10 ans, il est moniteur de parachutisme, monsieur. Non, vous ne connaissez pas votre fils, madame, je vous dis. Et de me laisser comme ça souffrir.
Dans ce moment tragique, vous venez de perdre votre fils.
Voilà, hein. De ne pas dire on est triste pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, l'enquête est comme ça, on est obligé de vous poser des questions. Non, elle était tellement sévère, elle nous a gardé jusqu'à 17 heures. Et là, j'ai dit, monsieur, je ne veux vous répondre plus aucune question, je voudrais aller voir mon fils à la morgue. C'est vraiment le mien. Et ce policier me regarde dans les yeux et me dit, c'est bien le vôtre, madame. Et j'ai trouvé ça glacial. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, de toute façon, maintenant, vous ne pouvez rien faire. Vous allez partir et vous attendez demain matin, parce que la morgue est fermée. Je voyais mes enfants bouillir. Mon mari était complètement perdu. Et on est descendu de cette commissariat. Et j'ai pris mes enfants dans mes bras. J'ai dit, écoute, je ne sais pas si c'est Ahmed qui est dans la morgue. Mais il ne faut pas écouter ce monsieur-là. Parce que ce monsieur... Peut-être elle est raciste, peut-être elle n'est pas consciente de ce qu'il vient de faire. Mais tout ce qu'on a construit ensemble, ce n'est pas lui qui va demi-luire. Alors il faut rester solide jusqu'à demain.
Vous avez une drôle de pensée, Latifa, en voyant le corps de votre fils à la morgue. Vous vous dites, c'est un arabe qui est mort. Pourquoi est-ce que vous avez pensé ça de votre fils militaire français?
Parce que... À force, c'est que j'ai entendu au commissariat, pour eux c'était juste un arabe parce qu'il s'appelait Ahmed. Et ça m'a fait trop mal.
On va y revenir en seconde partie, Latifa, mais j'aimerais bien que vous me disiez comment on va faire maintenant pour passer de la chanson Barry White après une telle conversation. Hein, car vous aimez Barry White.
Oui, parce que mon fils il adore cette musique.
Ça, c'était une chanson qu'il écoutait,
Can't
Get Enough of
voilà,
Your Love Baby.
Qu'il écoutait beaucoup et que j'ai trouvé même sur son iPhone. Il était fan de ce chanteur.
Alors, on l'écoute en pensant à Ahmed.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. As many times as we loved and we've shared love and made love, it doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change, something moving. I scream your name, look what you got to do with darling eyes.
Comment lutter contre Barry White? N'essayez même pas. Ça se passe en sol majeur dans l'iPhone d'Imad, à qui on rend hommage aujourd'hui avec Latifa Ibn Ziaten, sa maman, française, musulmane, militante contre la radicalisation des jeunes, et de retour dans 3 minutes.
A long way from home.
En sol majeur.
Le destin de Latifa Ibn Ziaten a basculé le 11 mars 2012. Ce jour-là, elle devient la mère de la première victime de Mohamed Merah. Dans son livre « Mort pour la France », elle raconte qui elle est, d'où elle vient et sa foi dans les valeurs républicaines de sa nouvelle terre d'accueil. Pour cette Marocaine exilée, l'équilibre de ses enfants passe par la double culture. Pas question que ce soit la France dehors et le Maroc dedans. Donc chez les Ibn Ziaten, on fête par exemple et l'Aïd et Noël. Elle raconte aussi son effondrement au moment de l'assassinat de son fils militaire français et puis sa volonté de se relever et de soutenir une cause pour perpétuer la mémoire d'Imad. Et en fait, Latifa, cette décision commence chez vous par un désir de comprendre. C'est-à-dire que quelques semaines après la mort de votre fils, vous vous rendez à Toulouse, vous avez envie de voir où habitait Mera, et vous vous rendez dans le quartier des Isards. Et quand vous arrivez au bas de son immeuble, vous engagez la conversation avec les copains du tueur. Et là, vous avez une conversation édifiante avec eux.
Oui, c'était 40 jours après l'enterrement de mon fils, Imad. C'était important d'aller à Toulouse. Je dis, je dois y aller voir qui il était, Mohamed Marrah, où il habite. Et je me suis trouvée dans cette cité. Il y a un groupe de jeunes qui c'était leurs voisins, qui se connaissent très très bien. Et je dis, bonjour, savez-vous où il habite, Mohamed Marrah, s'il vous plaît. Une fois, deux fois. Et la troisième fois, le jeune, il se met à sourire. Il me dit, madame, Mohamed Marrah, c'est un martyr. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Je dis, jeune homme, je suis la maman de Ahmed, le premier soldat qui était assassiné par Mohamed Marrah. Vous me dites que Mohamed Marrah, c'est un martyr? C'est un héros de l'islam? Et ces jeunes, ils sont tous élevés. Et mon cercle, et je vous assure, à un moment donné, je croyais que je vais passer. Et ces jeunes, c'était le contraire. Il y en a un qui me dit, si Mohamed Marrah, madame, il savait que votre fils est musulman, il ne l'aura pas tué. Je dis, écoutez bien, musulman ou pas musulman, on ne doit pas prendre la vie à quelqu'un. Mohamed Marrah, c'est juste un assassin. Mettez ça dans votre crâne. Et un jeune, il me dit, madame, j'ai 25 ans. Regardez où on habite. Vous êtes courageuse de venir jusqu'à ici. Mais moi, c'est fini ma vie. Je suis mort déjà. Ici, on est comme des rats. Et les rats, quand ils sont enfermés, et deviennent enragés et sortent, ils font de ravages dans la société. Faites quelque chose, s'il vous plaît, madame. Voilà. Et ce jeune homme, il est mort en Irak. Parce que je l'ai cherché. Je l'ai cherché vraiment longtemps. Ils m'ont dit, il est mort en Irak.
J'ai rien compris. Elle est beau, beau gosse, elle est gentille, elle est... D'un coup, elle est changée. Moi, je sais pas. Je sais pas pourquoi elle est devenue comme ça. Elle est morte. Il a pris beaucoup de vie avec lui. Je pleure pour lui, pour les autres. Je n'ai pas pleuré rien pour mon fils. J'ai pleuré pour les autres, les victimes.
D comme djihad.
Alors on va pas rentrer dans ce que dit ou pas le Coran sur le djihad, Latifa Ibn Ziaten, mais en entendant à l'instant la mère de Mohamed Mera totalement perdue par rapport à l'acte de son fils, ça pose évidemment la question de la responsabilité des parents par rapport à la dérive de leurs enfants. Est-ce qu'il vous est arrivé de penser, puisque vous avez enquêté finalement, que Mohamed Mera était à la fois un assassin et une victime?
Oui, les deux. Parce que une victime, parce qu'il n'a pas reçu une aucune éducation. Il était livré à lui-même. Il était abandonné, cet enfant. Pour côté d'assassin, c'est qu'il a passé à l'acte. Je n'accepte pas ce qu'il a fait. Je ne pardonne pas. Je laisse Dieu le jugera. Mais je l'ai pardonné ce qu'il était. Parce que s'il y avait vraiment des parents qui ont protégé leur enfant, lui, il sera là et nos enfants aussi.
Donc aujourd'hui, vous êtes en train de tenter de sauver finalement ceux qui sont à l'origine de votre propre malheur, Latifa Ibn Ziaten. Vous avez créé l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Dans quel but?
Au début, je l'ai créé parce que toute cette souffrance que j'ai eue, moi et ma famille, toute cette humiliation, J'ai dit, pour la mémoire de mon fils, la mémoire de Ahmed qui reste en vie, et d'aider des familles qui sont dans leur cité, des femmes qui ne savent pas, qui ne sortent pas de chez eux. Alors j'ai dit, moi, je me suis intégrée, voulue, regardez ce qui m'arrivait. Alors une femme qui ne connaissent pas des règles ou des droits, comment elle peut être reçue? Alors je voudrais faire ce combat. Et après, quand je allais à Toulouse et je vais ces jeunes, oh, je dis, mon Dieu, c'est là qu'il faut que je travaille. Eux, ils étaient l'origine de ma souffrance, mais moi, je dois tendre la main à cette jeunesse qui est en train de créer des victimes.
Donc vous sillonnez la France, vous allez dans les écoles, les collèges, hein, c'est le coin sensible de l'école aujourd'hui. Vous allez dans les prisons, j'imagine que vous avez obtenu le statut de visiteuse de prison.
Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que vous avez pu entendre de pire dans les aveux que vous avez pu collecter?
Il y en a disent que le dos, il est cassé notre dos. Il n'y a pas spécialement que des terroristes, il y a des jeunes qui sont par des bêtises, par des vols, par des petites... et qui sont condamnés à longue condamnation. Et ça, c'est très difficile, parce qu'on le voit dans leurs yeux. Qu'est-ce que je vais devenir? Comment je vais trouver ma place, madame? Avec les petites choses que j'ai faites, je n'ai pas violé, je n'ai pas tué. Et voilà, je suis là, enfermée.
Alors, on constate aujourd'hui une progression inquiétante du nombre de femmes parmi les djihadistes de l'EI. Juste un chiffre, en Syrie et en Irak, actuellement, un djihadiste français sur trois est une femme. Alors je voudrais vous faire écouter au micro de France Culture le témoignage de Leïla. C'est une très jeune fille recrutée sur les réseaux sociaux et qui a été prise en charge, récupérée donc, par la cellule de désembrigadement créée par Dounia Bouzar.
Je me disais que j'allais aider les autres. Je faisais des Skype avec les recruteurs, par téléphone, par Facebook. En fait, c'était constant, quoi. Il n'y avait pas un moment de répit. En fait, ils ne nous laissent pas tranquilles. Ils veulent être sûrs qu'on vienne, quoi. Donc j'avais tout renié, j'avais renié mes amis, ma famille, ma vie d'avant, l'école, la scolarité, tout. Je m'étais coupée du monde. Je voyais que par eux, en fait. Ils sont toujours là quand on se disputait par rapport à l'islam avec mes parents et tout. J'allais vers eux et tout. Et puis la relation qu'il y a entre les sœurs qui se fait, c'est impressionnant, quoi. C'est comme un cocon, on se sent en sécurité. Un garçon, il est venu me parler sur Facebook. Puis il m'a dit qu'il voulait se marier et tout. Et puis je lui ai raconté que j'avais raté ma tentative pour venir. Et en fait, il m'a fait passer en Skype où on se voyait. Et puis là, il m'a expliqué comment venir et tout. Et puis ensuite, il m'a dit, voilà, cherche une femme pour me marier. Enfin, il m'a demandé un mariage et j'ai accepté. C'est ridicule. Il avait les mêmes envies que moi, quoi. Combattre, il acceptait que je combatte. En dot, il allait me passer une calache. Enfin, moi, c'est tout ce que je rêvais, quoi. Ça peut être absurde, mais quand on est dedans, ben, ça me faisait rêver, en fait. C'est cette vie que je voulais. Je voulais combattre, mourir un martyr. Je voulais combattre sur le chemin d'Allah, vers le djihad, quoi. Pour mourir un martyr, pour la cause d'Allah. Pour défendre les Syriens, mais avant tout pour mourir un martyr.
Quels arguments vous pourriez avoir en face de cette jeune fille, Latifa Ibn Ziyaten?
Oui, il y en a beaucoup, malheureusement, de jeunes comme ça, par la fragilité.
Mais comment récupérer une jeune fille qui vous dit, mon rêve, c'est d'avoir une Kalachnikov et de mourir en martyr?
C'est parce que s'il avait trouvé un bon dialogue chez elle, moi je pense, il n'y a personne qui peut la mettre dans ce chemin-là, de prendre de Kalachnikov ou quiconque.
Mais ça, c'est trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait?
Il faut les écouter, il faut les mettre dans les centres, pour le montrer la vraie réalité.
La vraie réalité, pardon, Latifa, ne fait pas rêver. Et ces jeunes ont besoin d'un rêve avec un grand R. Ils se sentent comme dans un cocon dans cette communauté musulmane, qu'on va mettre entre guillemets, bien sûr. Que proposer qui fasse rêver, puisqu'ils abandonnent un absolu pour une réalité qui ne fait pas rêver?
Vous savez, aujourd'hui, moi, je suis sur le terrain, qu'on voyait ce ghetto, qu'on voyait cette cité fermée, quand vous allez dans les écoles, il y a pratiquement 100% des origines maghrébines ensemble, et ils ne s'entendent pas, ils se sentent rejetés de la société, se sentent rejetés de la République. Et c'est pour ça que j'arrête pas de dire, ouvrez ces cités, ouvrez ces ghettos, mais que c'était dans l'établissement scolaire, donnez la chance à ces jeunes, on a les moyens de le faire.
Est-ce que vous avez réussi à récupérer certains jeunes qui étaient en partance pour la Syrie?
Oui, j'ai aidé deux jeunes. Et j'ai convaincu ces jeunes de dialoguer avec leur mère. C'est pas parce que leur mère, elle est française, elle est chrétienne et que lui est devenu converti, il est devenu musulman, qui est différent de l'autre. C'est sa mère. C'est d'aimer sa mère, de la respecter, d'ouvrir les yeux, d'aller chercher du travail. C'est pas la guerre qu'on va réussir. C'est pour ça que j'ai dit cette guerre, elle est moche aujourd'hui.
Est-ce qu'il est plus facile de récupérer des jeunes convertis que des musulmans de...
Oui, c'est difficile. C'est très difficile. Un converti, il est vraiment dur à vous écouter. Parce que déjà, il est complètement fermé. Donc, j'ai réussi.
Établir quoi, une relation de confiance Qu'est-ce qui fait que ça bascule à un moment donné dans sa tête?
Je vous assure, je ne sais pas. C'est quand je parle avec le jeune, des fois, il m'écoute. Il est là, il a l'arme aux yeux. C'est que je le touche.
Pensez que vous êtes légitime parce que vous êtes la mère d'Imad, mais aussi parce que vous êtes musulmane. Est-ce qu'une non-musulmane pourrait avoir le même ascendant sur des convertis ou sur des gens qui se radicalisent?
Je ne pense pas, ça n'a rien à voir avec la religion. Vous savez, la religion, elle est personnelle.
Parce que c'est quand même la question cruciale, la religion, oui. Même si ce n'est pas la bonne religion.
Oui, parce que les gens, ils font de l'amalgame. Aujourd'hui, l'islam, il est devenu en Europe une identité. Il est devenu une nationalité. C'est ça le problème de l'islam aujourd'hui. Quand quelqu'un dit les musulmans de France, d'abord on peut dire les citoyens. Pourquoi on va dire les musulmans de France? On ne dit pas les juifs de France, on ne dit pas les chrétiens de France.
Beaucoup de jeunes des banlieues, on va dire, sont victimes de ce qu'on appelle la hogra, c'est-à-dire du mépris. Certains vous ont même dit, Latifa et Benziaten, dans le quartier de Mohamed Merah d'ailleurs, je crois, nous la France, on la voit à la télé. C'est une phrase terrible. Est-ce que vous pensez qu'en rétablissant le service militaire, on peut récupérer ces jeunes-là?
Ce que je demande, elle est importante aujourd'hui. Et elle apprend la discipline, le respect, le vivre ensemble. Et l'armée, il y a vraiment une mixité. Vraiment. Si vraiment ils voudraient sauver cette France, on commence par le service militaire. Parce qu'il y a certains parents qui ont décroché. L'école, elle reste seule. L'école, elle ne peut pas travailler sans famille. Et le service militaire, il n'y en a plus.
Est-ce que vous avez vu le film Entre les murs?
Non.
C'est l'histoire d'un jeune professeur de français, d'une classe de 4e dans un collège difficile du 20e arrondissement de Paris. Voilà ce que ça donne.
Mettons que je dise, il faut que je sois...
on
va dire en forme. Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soit là? Eva?
C'est du présent du subjonctif.
Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là.
Il fallait que je sois.
Il fallait que je... Kumba?
Sois.
Fus?
Fus.
Eh oui. Mais vous croyez vraiment je vais aller voir ma mère, je vais dire il fallait que je sois fus?
Il fallait que je sois fus, c'est apprendre d'abord la phrase avant de...
Il fallait que je sois fus.
Il fallait que je fusse en forme, c'est
mais
une...
Mais ça se dit pas dans la vie.
D. Comme. 12 France.
Le vivre ensemble, c'est le nouveau Graal, j'ai l'impression. Aujourd'hui, Latifa Ibn Ziaten, vous portez la bonne parole de ce vivre ensemble partout en France. Vous avez même une aura internationale, vous voyagez beaucoup. Vous intervenez, vous y tenez, bien sûr, autant dans les mosquées qu'au musée d'art d'histoire du judaïsme. D'ailleurs, le CRIF vous a invité il n'y a pas longtemps et vous vous êtes fait remarquer hein, en tant que musulmane avec la sonnerie de votre portable.
C'est la première fois qu'il m'invite et je mets le pied dans cette musée et mon téléphone il se met à l'heure de la prière. Allahu Akbar.
C'est la sonnerie de votre portable.
C'est la sonnerie de mon portable et tout le monde est paniqué parce que je suis rentrée sans être fouillée ni rien et poser des questions. Et un seul monsieur il a dit vous inquiétez pas, c'est son portable. Et moi j'arrivais pas tellement, j'étais en panique, j'arrivais pas à l'éteindre.
Alors, votre association voyage beaucoup, elle organise aussi pour les ados des voyages et vous avez notamment emmené 17 élèves en Israël et en Palestine. Racontez-nous.
Oui. À Sarcelles, moi je travaillais beaucoup dans l'établissement là-bas, scolaire, et il y avait un petit souci qui s'est passé, ils ont attaqué la synagogue, et moi j'étais préparée de faire ce projet. Et en même temps, pourquoi je l'ai ramené? Parce qu'à chaque témoignage que je fais dans l'établissement scolaire, un enfant ou deux me dit pourquoi on doit faire un minute de silence. C'est ce qui se passe en France, mais on prend jamais un minute de silence toutes ces jeunes filles palestiniennes qui sont en train de tomber par jour.
C'est quelque chose que vous entendez régulièrement?
Régulièrement, oui. Et j'ai dit, tiens, je vais aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et j'ai eu de la chance, je suis allée, j'ai visité Ramallah, j'ai visité Jérusalem, Tel Aviv, enfin j'ai vu les gens comment ils vivent. Et quand on est arrivé à Jérusalem, on a été visiter d'abord les hôpitaux pour voir un petit peu comment ça se passe quand on est malade. Et là on trouve une Palestinienne avec son enfant, on trouve une femme israélienne avec son enfant, la même chambre. On sort de là, il y a des boutiques palestiniennes, arabes. On parle avec un Israélien, il parle arabe. On parle avec un Palestinien, il parle hébreu. Et quand on est venu, ces jeunes, ils ont changé. Ils ont grandi. Et c'est là qu'on a choisi les 6 ambassadeurs de paix. Parce que quand on entend ces jeunes, ils disaient, moi avant, je ne m'approchais pas vers les juifs. Et maintenant, je côtoie facilement. Et bien, j'ai gagné. J'ai gagné plusieurs jeunes et chaque message qu'ils peuvent passer, ben on peut créer la confiance en soi et d'aller vers l'autre sans avoir peur.
Mais votre présence bienveillante, Latifa Ibn Ziyatan, n'est pas toujours bien perçue. Votre foulard, par exemple, dérange parfois. Je pense à l'épisode de l'Assemblée nationale hein, où vous êtes fait épingler sur cette question. Je pense au journaliste Mohamed Sifaoui. Qui trouve, lui, contradictoire le fait que vous veniez dans les écoles, donc dans un espace public, défendre les valeurs républicaines en étant voilée.
Je respecte chaque personne. Moi, j'ai travaillé dans l'établissement scolaire 24 ans. J'étais cuisinière. Je ne portais pas le foulard. Mais là, si je rentre dans l'établissement scolaire, je ne travaille pas. Je suis là pour passer un message de paix. Mais si je travaille, oui, je l'enlève. Je respecte les règles de la laïcité.
Est-ce qu'il est vrai que vous avez reçu des menaces de mort?
Oui. Les menaces plusieurs fois et toutes sortes de personnes.
C'est-à-dire?
Déjà quand j'étais agressée à l'Assemblée nationale, aujourd'hui ça m'a permis d'ouvrir un peu plus les yeux. Parce que quand je voyais deux personnes de certain âge, cultivées, d'attaquer une femme qui armait ce combat, je trouvais c'est grave. Alors aujourd'hui, les gens, quand ils viennent me saluer, toujours je regarde deux fois.
De la part de qui elles viennent, ces menaces?
Musulmans et non-musulmans.
Donc avec quels arguments? Qu'est-ce qu'on vous reproche?
De ne pas parler de vivre ensemble, d'aller aider ces jeunes qui tombent dans cette secte. Et certaines personnes, je n'ai rien à faire de parler de la République, des valeurs, parce que je porte un foulard. Je ne suis pas française. Voilà, c'est des mots que je reçois souvent et que je réponds. Je suis française et je suis fière de l'être. Et il ne faut jamais juger la personne avec l'apparence. Il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur d'elle.
H.com Home, sweet home.
Votre livre s'appelle « Mort pour la France » et en même temps, votre fils n'a pas reçu tout de suite le titre et les honneurs accordés aux soldats morts pour la France.
Oui. Mon premier combat, c'était ça. Parce que quand j'ai reçu ce courrier de ministère qui m'ont dit « Votre fils, il est mort en service. » Et là, mon Dieu, j'ai dit non. J'ai appelé les journalistes, j'ai tapé toutes les portes. Jusqu'au président de la République. J'ai dit, monsieur le président, mon fils, il est mort pour la France. Il n'est pas mort en service. Il m'a regardé, il m'a dit, ça sera difficile, Latifa, parce que on n'est pas en guerre en France. Si on met mort pour la France, ça veut dire 2 soldats. Et Mohamed Marah, ce n'est pas un soldat. Comme vous le dites, c'est un assassin. Et j'ai dit, je ne veux rien savoir. Moi, mon fils, il est mort pour la France. Et ils ont fait cette loi, ça a été voté et ça a été créé, mort au service de la nation.
On a une sainte dans le studio d'Anson Majeur. C'est peut-être son esprit qui est là, mais c'est surtout sa voix. La voix de Mère Teresa, prix Nobel de la paix 1979 pour son œuvre auprès des plus démunis de Calcutta.
care the children that are homeless and unwanted, and especially for the girls that have been misused.
Cette maison accueillera les enfants qui n'ont pas de foyer et qui ont été abandonnés, et aussi plus spécialement les jeunes filles qui ont été violées par les soldats.
It is only a drop, but if that drop is not there, the ocean will be one drop less.
C'est seulement une goutte d'eau, mais s'il n'y a pas cette goutte d'eau, elle manquera dans l'océan.
Et vous pensez que ce message d'amour est nouveau ici, pour les musulmans, les hindous ?
Il n'y a qu'une seule chose qui compte, l'amour. Sinon, aussi longtemps que régneront la haine et l'intolérance, il n'y aura ni amour ni paix. Et pour pouvoir s'aimer les uns les autres, il faut qu'ils se pardonnent les uns les autres.
La voix de Mère Teresa, canonisée récemment par le pape François, ça vous arrive de vous identifier à cette grande figure, Latifa Ibn Ziaten ?
J'aime cette femme. J'aime ce qu'il fait, j'aime ce qu'il a fait. Vous voyez, l'amour, elle est importante.
Elle prononce, je crois, le mot pardon à un moment donné. Est-ce que le mot pardon est un mot qui compte dans les textes pour les musulmans ?
Bien sûr. Pardonner, c'est important pour un musulman ou non musulman. Vous voyez, j'ai pardonné à Mohamed Marah. Il a tué mon fils, mais je lui ai pardonné ce qu'il était.
Alors je ne sais pas si votre foi est aussi grande que celle de Mère Teresa, mais je crois savoir que lorsque vous avez fait votre pèlerinage à la Mecque, Latifa, vous y avez vu votre fils après sa mort.
Oui. J'étais à la Mecque, on tournait avec mon mari, on s'est perdu et j'étais à Safa ou Marwa. Et je me suis trouvée avec un groupe et un groupe il m'a dit « Vous pouvez tenir derrière, madame, et on va suivre. » Et j'ai frotté mes yeux et je voyais mon fils comme je vous vois. Et il m'a regardé, mais il avait ce groupe. Il était à fond avec ce groupe, en train d'expliquer. Et moi, j'ai crié « Ahmed, Ahmed, Ahmed !» J'ai lâché et j'ai couru. C'est pas un imagination. J'ai vu mon fils comme je vous vois.
Et comment vous l'interprétez alors, cette vision ?
Et quand je suis partie voir un grand savant, et j'ai dit, voilà, des gens ils me disent, je souffre parce que... Il m'a dit, non, ça arrive, madame. Vous avez beaucoup de chance. Il est avec vous. Vous êtes là, dans le monde, vous ramenez ce combat. Et lui, il est là-haut, il ramène le combat à sa manière. Et c'est réel ce que vous avez vu. Et j'ai dit, je vous remercie de me croire.
J'ai une dernière question. Je sais que vous étiez très attachée à deux objets liés à votre fils, à savoir son béret rouge. Et puis les clés de son cercueil. Que sont devenus ces objets ?
Alors le béret, il est toujours avec moi. Et les clés de cercueil, j'ai laissé à la Mecque. J'ai laissé une clé où il y a les shuhada.
La profession de foi ?
Oui. Et l'autre clé, je l'ai laissé où on fait le hajj, le Kaaba. On tourne.
C'était difficile de vous séparer de...
Oui, c'était trop dur. Mais j'ai dit, ils sont mieux ici, ces clés. Je me suis convaincue que je l'ai vu là. Je l'ai vu, mon garçon, plein santé, aider les autres. Alors pour moi, c'était important de laisser ces clés où je l'ai vu.
Au générique de cet ensemble majeur consacré à Latifa Ibn Ziaten, un livre, témoignage, paru en poche, Mort pour la France. Merci Latifa et puis bon vent à votre association IMAD pour la jeunesse et la paix. Alors vous l'aimez tellement cette jeunesse que vous avez programmé en sol majeur Stromae.
Oui, c'est important.
Merci Latifa.
Merci à vous.
Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je vais pas vous draguer. Promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain. Je peux pas faire d'enfant et bon, c'est pas. Hé, hey, reviens, 5 minutes quoi. Je t'ai pas insulté, je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, j'avais autre chose à faire. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable.
En sol majeur, avec Facebook, Twitter et derrière votre poste chaque samedi et chaque dimanche à 13h10 temps universel, Caroline Filliette, Laura Pinto, Yasmine Chouaki, on vous retrouve demain avec Elgas. À demain.